Patrick Rébollard, quelque peu déçu par des études de sciences physiques, a entamé des études littéraires qui se sont momentanément conclues par un DEA à Paris 3 sur l'intertextualité dans les œuvres de Claude Simon. Puis il a découvert l'ordinateur et fondé avec Henri Béard et quelques autres chercheurs l'équipe Hubert de Falaise à Paris 3, consacrée aux études littéraires assistées par ordinateur, pour laquelle il a numérisé et révisé l'intégralité des œuvres de Claude Simon, ce qui lui a valu une bourse de la chancellerie des universités de Paris, ainsi qu'un poste d'allocataire moniteur lors de la création de ce statut. Échoué, je le cite bien entendu, échoué au Japon, il a su s'y acclimater et redéployer ses panneaux solaires scolaires pour intervenir dans des colloques et même pour en organiser. Outre quelques publications consacrées à Claude Simon et de nombreuses contributions au congrès japonais pour y promouvoir l'usage de l'ordinateur dans l'enseignement du français langue étrangère, il a publié en avril 2002 « Les salons littéraires sont dans l'Internet » aux Presses universitaires de France, collection Écritures électroniques, et vient de participer à un colloque à Rennes sur la littérature et les nouvelles technologies en y traitant de l'anonymat et du bénévolat, @, à chaque fois, dans les échanges littéraires en ligne, articles apparaître. Bien, la parole est à lui pour Victor Hugo et le tamis électronique.
Merci beaucoup. Vous le savez, je ne suis pas spécialiste de Victor Hugo. Plus haut. Et je ne pourrais même pas essayer de le simuler, car il y a ici tant d'éminents connaisseurs de Hugo que je serais sans retard démasqué. De l'œuvre de Victor Hugo, je suis un promeneur. Comme un promeneur peut parler de la terre et du chemin où il est allé flâner, sans pour autant connaître la terre comme un paysan la connaît, ou comme un géologue la connaît, je crois que je peux ici faire état de certaines promenades aux confins du continent Hugo. Et cette surface de Victor Hugo et de son œuvre, sans prétendre à la profondeur donc, je l'ai parcourue en m'installant aux commandes d'un véhicule tout à fait contemporain, l'ordinateur, avec une idée très précise, savoir ce que l'on peut apprendre de Victor Hugo, et pour pimenter un peu l'affaire, ce que l'on peut savoir de Victor Hugo en dehors des lieux virtuels spécifiquement hugoliens. En effet, j'ose imaginer que dans les sites web officiels consacrés à Hugo, les informations sont élaborées, vérifiées, validées, autorisées, en sorte que les lecteurs du dimanche et nos chères têtes blondes ne risquent pas de se perdre ou de trouver de mauvaises informations. On sent donc poindre une hypothèse, presque involontaire, que certaines pages web sur Victor Hugo pourraient contenir de mauvaises informations et que ces fausses informations pourraient avoir des effets néfastes sur le public non averti. Votre promeneur serait alors un censeur du web, un cyberpolicier qui montre du doigt les fauteurs de troubles dans la doxa hugolienne, un y-croisé hugolâtre à l'assaut des mécréants? Non. Il s'agit de voir ce que la liberté d'expression permet aujourd'hui aux hommes, et de prévoir, dans la mesure du possible, ce que les universitaires et les institutionnels doivent baliser, réglementer, préparer pour une meilleure gestion de l'Internet, au moins en ce qui concerne le patrimoine littéraire. Mais revenons tout d'abord à l'idée, encore une fois, de fortune littéraire. Qui dit fortune dit richesse, mémoire, transmission. Richesse, mémoire, transmission. La richesse, c'est la quantité et la qualité. Avec Victor Hugo, nous avons ce qu'il faut. Et même dans l'Internet maintenant, où la plupart des grandes œuvres de Hugo, romanesques, théâtrales et poétiques, sont présentes. La mémoire, c'est la fidélité au texte, à l'esprit et à la lettre du texte. Là, nous verrons qu'il y a de nombreux problèmes. Enfin, la transmission, c'est le geste de donner en instruisant, l'action de passer le témoin d'une génération à l'autre, et c'est un des problèmes cruciaux de notre société, avant même l'existence de l'Internet, mais que l'on retrouve aussi dans l'Internet, évidemment. Par conséquent, la richesse est un objet inerte, un tas de bijoux par exemple, et il faut à la fois, premièrement, que la mémoire garde l'idée de cette richesse, en la rendant compréhensible et productive dans une certaine situation du monde. Deuxièmement, que la transmission donne accès à cette richesse et à cette mémoire. M'écartant des sites officiels qui donnent un sens nouveau cette année au concept de fortune de Victor Hugo, j'ai entrepris de parcourir sur de petits chemins des pages contenant des termes hugoliens en les recensant à l'aide d'un moteur de recherche, Search Engine, et vous avez une photocopie qui vous a été donnée comme ça avec quelques résultats de recherche à l'aide d'un moteur, donc Search Engine, qui s'appelle Google et qui est l'un des plus performants reconnus aujourd'hui. Quand vous cherchez dans Google Victor Hugo, Demain dès l'aube, un Gavroche ou combien de capitaines, vous avez de fortes chances de tomber sur des pages web où il n'est qu'incidemment question de Victor Hugo. Ma question est donc celle-ci. Dans cette incidence, que reste-t-il de Victor Hugo et de son œuvre? Autrement dit, quelle est la cyberfortune de Victor Hugo? Commençons par son nom, Victor Hugo. Sur les 276 000 occurrences de Victor Hugo, pris comme une expression, un ensemble de lettres avec l'espace, et non pas la somme des Victor et des Hugo, près de 150 000 renvoient à des pages web en français, et dans ces pages en français, 41 000 occurrences concernent des adresses, donc des rues Victor Hugo, avenue Victor Hugo, impasse même. Reste donc environ 100 000 occurrences de son nom, auxquelles nous pouvons accorder une certaine pertinence. 100 000. À condition d'accorder une valeur de principe au nombre de citations dans l'Internet. Le nom de Marcel Proust n'y a que 64 000 occurrences, dont 13 500 en français. Et les autres auteurs, moins encore, à l'exception de celui de Jean-Paul Sartre, présent 94 400 fois, dont 13 300 en français. En fait, Victor Hugo entre dans la catégorie supérieure, si je puis dire, celle des William Shakespeare, 298 000 occurrences, mais aussi des Michael Jackson, 227 000 occurrences, c'est tout dire. Plus sérieusement, que signifie 100 000 occurrences d'un nom d'auteur dans l'Internet aujourd'hui? Cela signifie une présence très large, une visibilité, comme l'on dit, qui s'accorde très bien avec le message humaniste et mondialisable que l'on attribue à Hugo. Les sites officiels nous le rappellent chaque jour. À l'échelle mondiale, c'est une des présences françaises les plus affirmées. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne bien la mesure de l'intérieur de l'Hexagone, où les querelles de chapelle font rage. Ce « French of the French », comme l'écrivait Alfred Tennyson, qui ajoutait « Stormy voice of France », de quoi nous flatter, était pourtant considéré il y a peu encore comme un auteur barbant et verbeux dans son pays même. Il n'y avait qu'à demander à des collégiens ou à des lycéens ce qu'ils en pensaient. L'embellie du bicentenaire durera-t-elle ? De même au Japon, où Hugo est très mal connu, le titre d'auteur des Misérables cache à peu près tout le reste de l'œuvre. Les chercheurs hugoliens japonais se comptent sur les doigts des deux mains, alors que les Proustiens et les Balzaciens sont trop nombreux. Dans les pages web où figure le nom de Victor Hugo, et qui ne lui sont pas spécialement consacrés, on remarque qu'il est soit cité sans commentaire, comme une évidence, une connaissance que tout le monde doit avoir acquise au préalable, soit cité comme poète national, étiquette simpliste, qui cache tout de même les péripéties de son parcours politique, soit encore cité comme poète en exil, sans que l'on sache très bien ce qu'il faisait pendant tout ce temps, on imagine qu'il contemplait la mer, soit cité comme l'auteur des Misérables, et c'est à peu près tout ce qu'il aurait écrit, soit aussi nommé comme parolier de chansons contemporaines. Au Japon, c'est plutôt l'histoire de l'introduction des connaissances occidentales depuis l'ère Meiji qu'il faudrait interroger en détail. De façon sommaire, on peut avancer que les défenseurs du symbolisme auraient barré passage aux promoteurs de Victor Hugo. Comme diffracté par un prisme, on peut constater que l'image de Victor Hugo diffère dans chaque pays, mais que presque à chaque fois, l'image de l'homme cache l'œuvre, sauf pour quelques érudits. En donnant cette année un plus large accès au texte pour les francophones et francophiles, connectés du monde entier, et en les accompagnant d'explications et d'activités pédagogiques, l'Internet peut enfin jouer un autre rôle que d'être un miroir multiplicateur de clichés. Je vais maintenant traiter de quelques éléments hugoliens et des dangers que l'Internet mal conçu fait courir à notre patrimoine. Prenons par exemple le célèbre poème qui commence par « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Il y a une affiche sur la porte là-bas qui nous le rappelle, amenée ici par Madame Pratt du ministère qui nous parlera cet après-midi. C'est un poème court de 3-4-1 en alexandrin, publié en 1856 dans le recueil intitulé « Les Contemplations ». Poème 14, sans titre, du livre 4e, dans la deuxième partie, intitulée « Aujourd'hui », daté 1843-1855, et qui fait pendant à la première partie, intitulée « Autrefois », daté 1830-1843. Le poème est daté du 3 septembre 1847. Et il raconte au futur la marche d'une journée qui conduira le narrateur sur la tombe de la personne à qui il adresse le poème, à qui il s'adresse dans le poème. Pardon. Nous savons que Hugo évoque la mémoire de sa fille Léopoldine, morte accidentellement le 4 septembre 1843. Et qu'il parle du voyage qu'il projette de faire lui-même le lendemain. Mais le texte ne dit pas s'il s'agit d'une fiction ou de Victor Hugo lui-même. Il faut connaître la biographie ou savoir qu'un poète romantique parle toujours de soi. Tout comme le crime et l'identité du condamné dans le journal d'un condamné à mort, c'est le retrait des détails identitaires qui favorise la diffusion du texte et l'identification du lecteur, donc la force littéraire de l'œuvre. Victor Hugo écrit dans la préface des Contemplations « Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne ». Les relations entre les dates me paraissent très importantes En effet, en 1856, Hugo rassemble des poèmes des 26 dernières années. Depuis l'année de naissance de sa fille Adèle, 1830, qui est aussi l'année de Hernani, et les distribue selon une partition symétrique, j'insiste, je le souligne, marquée par l'année de la mort de Léopoldine, 1843. Séparant autrefois d'aujourd'hui, on en a déjà parlé un peu hier. Dans la préface, il parle du tome premier comme de celui de l'espérance et du second comme étant celui du deuil, précisant la perte des êtres chers. Il n'a pas choisi 1841, année de son élection à l'Académie française, ni 1845, année où il est nommé pair de France, ni même 1851, mais là, il n'y aurait plus de symétrie possible du tout, année de son départ en exil, d'où il compose les contemplations. Le poème « Demain dès l'aube » est précédé d'un poème intitulé « Veni, vidi, vici », daté d'avril 1848, postérieur donc, et suivi d'un poème intitulé « À Villequier », daté de Villequier, 4 septembre 1847, où l'on trouve le vers cité hier déjà, « Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent ». Quand le poète interpelle Dieu et se lamente, « Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant, sens-tu que je suis là ?» Si Victor Hugo inscrit certaines dates avec le mois, d'autres dates avec le jour ou avec le lieu, de façon non systématique, c'est certainement pour que tout cela fasse sens. Alors que reste-t-il de tout cela dans l'Internet, de tout ce sens des poèmes et de tout ce sens tissé entre les poèmes par la composition du recueil? À peu près rien. Par une recherche dans Google, on constate que l'expression « demain dès l'aube » est présente 715 fois dans une page web en français. Le vers entier n'a lui que 160 occurrences, ce qui veut dire que « demain dès l'aube » est donné comme titre ou cité en extrait dans 550 pages web. Il faudrait tout un mémoire de maîtrise en sciences de l'information pour analyser en détail ces différentes inscriptions. Ce que l'on peut constater sommairement, outre l'admiration sincère de ceux qui le citent, c'est qu'il y a de nombreuses variations typographiques et orthographiques. Tantôt il y a une virgule entre « demain » et « dès l'aube », tantôt il n'y en a pas. Parfois l'accent de « dès » disparaît, ou bien c'est le dernier mot du poème « fleur » au singulier dans l'expression « bruyère en fleurs », qui se retrouve au pluriel, ou qui reçoit donc « fleur » au pluriel, ou qui reçoit une majuscule dans une page, sans doute pour rimer avec Harfleur, qui est le nom d'un village. Je vous en passe bien d'autres. Comme les scribes d'autrefois, qui copiaient en faisant des fautes, puis qui recopiaient des fautes qu'ils aggravaient, l'Internet produit de l'infidélité textuelle. Plus grave est le cas du paratexte dans les pages web. Titre, nom d'auteur et date sont en quelque sorte facultatifs. Alors que personne n'aurait l'idée de retirer ou de changer des mots du poème, quoique, on trouve une chanson d'Henri Tachant qui répète la première strophe comme un refrain plusieurs fois, aménage quelques vers à sa convenance, mais qui indique que les paroles sont de Victor Hugo. Dans les pages web où l'on trouve le poème, il y a le plus souvent le nom de Victor Hugo et celui des contemplations, mais pas toujours. Par contre, dans la plupart des cas, il n'y a pas de date du tout. Quand il y en a une, il n'y en a qu'une, c'est 47 ou 56, sans dire laquelle, à quoi ça correspond. Quant aux références de livres et de tomes, il n'en reste rien, sauf sur une ou deux pages. Pour autant, rien ne nous empêche d'admirer, ici ou là, une bande dessinée, très belle, par Vico, que tu avais prévu de montrer, alors on pourra peut-être la montrer après, dans un site d'apprentissage du français. Et puis, divers jeux pédagogiques d'apprentissage également du français sur des pages américaines, par exemple. La liberté d'expression qui manifeste si bellement à quel point ce texte peut encore émouvoir est en même temps responsable de ces erreurs, de ces modifications. Du coup, si je demande à un de mes étudiants de retrouver les références exactes dans l'Internet, il en sera tout à fait incapable. Il me présentera au mieux une liste des différentes références qu'il aura compilées, mais il faudra bien qu'il aille voir une édition papier pour chercher les bonnes informations. Aujourd'hui, cela est encore possible, mais dans 20 ans ou dans 50 ans, on n'est pas certain de pouvoir encore accéder aux livres. Pendant ce temps, les erreurs se seront multipliées, élargies, à moins que nous n'en prenions conscience aujourd'hui et que, collectivement, nous réfléchissions aux moyens d'éviter cette grande centrifugeuse réticulaire qui menace de défigurer et de déraciner ce pauvre petit poème et, dans le même mouvement, toute la littérature. Le grand Robert l'atteste, Gavroche, enfant des misérables, est devenu nom commun et adjectif dès 1866, soit 4 ans après sa naissance en volume. Dans la chanson « Mimille » chantée par Maurice Chevalier en 1936, le Gavroche de Ménilmontant est, je cite, « bien plus bouillant qu'Achille et bien plus beau qu'Ajax ». C'est dire comme il a changé. Il va presque à la messe et il s'engage dans l'armée en 1936. L'Internet n'est pour rien dans ce cas de diffusion, déformation dans la culture. Par ailleurs, les récentes adaptations des Misérables en dessin animé, en comédie musicale, ont à nouveau rendu célèbres les personnages de Hugo au prix d'une certaine simplification, on en a déjà parlé. Mais le réseau mondial permet-il d'apercevoir l'état actuel de cette recatégorisation du nom propre en nom commun? Techniquement, Google permet de distinguer le personnage de l'éponyme. Par exemple, en faisant une recherche d'expression avec le nom précédé d'un déterminant, comme un Gavroche, le Gavroche, comme expression. Mais j'ai retiré le cas de le Gavroche, car c'est presque toujours un nom de lieu, de restaurant, de cabaret, qui s'appelle le Gavroche. On peut aussi exclure du contexte de recherche de Gavroche le nom de Hugo. Ainsi, pour les pages web en français, Gavroche est cité 5600 fois, tandis que Gavroche sans Hugo ni Misérable, hein, on peut enlever des mots dans les textes à chercher, est cité 4250 fois. Merci. La recherche de l'expression « un Gavroche » nous propose 93 occurrences, chiffre qui descend à 75 si l'on retire Hugo et Misérable. 75, on peut les regarder tranquillement en une heure. Si sur le site Wonder Chanvre, c'est un jeune toxicomane de Budapest qui est, je cite, un Gavroche qui manipulerait non pas de la poudre à fusil, mais de l'héroïne. Ceux qui ont lu Les Misérables comprennent l'allusion, les autres, je ne sais pas ce qu'ils comprennent. Sur une autre page, c'est Prévert, Jacques Prévert, qui est, je cite, « un Gavroche pas toujours bien aimé ». Ici, plus d'allusions, si on ne sait pas, il faut prendre le dictionnaire. Dans une critique du film Billy Elliot, assez récent, on trouve cette phrase « le destin est inexorable » avec un accent aigu, « sic », et pousse finalement un Gavroche à se transformer en Lord Fauntleroy. Là aussi, il faut comprendre que Fauntleroy désigne Fauntleroy, du roman de Frances Hodgson Burnett, publié en 1886, Little Lord Fauntleroy, adapté pour le cinéma, puis en dessin animé, enfin très connu. Presque aussi populaire que Gavroche, on a ici un attelage de stéréotypes que tous les enfants instruits par les vidéos et les dessins animés peuvent comprendre. Ailleurs, on parle de se faire voler, je cite, « sa carte American Express par un gavroche famélique du Tatarstan ». Ailleurs encore, on peut mettre sa casquette, je cite, « à la gavroche », ça doit être sur le côté. Rencontrer un, je cite, « gavroche de Bruxelles », »,« gavroche poitevin », »,« un gavroche un peu manouche », »,« ce gavroche métissé », »,« un gavroche germain », allemand donc, ou même une gavroche en jupon. Et parce qu'il faut bien limiter cette énumération, un gavroche du pavé, où la tautologie montre bien la démotivation du terme. Or, cette dérive gavroche du pavé n'est pas non plus imputable à l'Internet, puisqu'elle sort d'une chanson de Mayol en 1903, chanson dont on peut trouver les paroles dans une page web. Alors que signifie cette recherche? Essentiellement qu'il ne faut pas diaboliser l'Internet et le rendre responsable de toutes les dérives de la langue. Dernier cas que j'étudierai pour aujourd'hui, celui du vers. Oh combien de marins, combien de capitaines. Vers qui ouvre le poème Océano Nox dans les rayons et les ombres, recueil paru en mai 1840. Ma recherche avec Google portera cette fois sur l'expression « combien de marins ?» en dehors du contexte de Victor Hugo et du titre « Océano Nox ». Je ne m'intéresse donc pas aux inscriptions explicites du poème, mais comme c'était le cas tout à l'heure, mais au réemploi d'une pathétique question devenue célèbre. Un exemple, dans un magazine en ligne de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale française de l'Atlantique Nord, un éditorialiste s'interrogeait de la sorte, je cite, un bouquet de questions. Comment développer le tourisme? Combien de missionnaires grassement payés à nous avoir bourré le mou avec des paroles de jésuites? Combien de rapports jamais écrits? Combien d'écrits jamais rapportés? Combien d'écrits encore qui ne rapporteront jamais? Combien de marins, combien de capitaines à s'être lancés à corps perdu pour des courses lointaines? Combien de capitaines à terre à nous avoir menés en bateau tout en restant au port? Fin de citation. Ici, ce sont les deux premiers vers d'Océano Nox, un peu arrangés, qui ont été intégrés dans le questionnement revendicatif pour lui donner plus de corps, de tenue, mais aussi à destination du lecteur un peu cultivé pour montrer que Victor Hugo aurait pu rallier sa cause. Alors, lorsqu'on recherche combien de marins dans des pages sans Hugo, Océano, etc., on isole 350 occurrences de l'expression sans référent. C'est-à-dire qu'il y a deux fois plus d'emplois de l'expression combien de marins sans renvoyer au poème de Hugo que d'emplois qui sont faits avec cette référence. Ce qui n'était pas le cas de Demain dès l'aube, presque toujours cité lui-même. Cependant, il ne s'agit pas de la prolifération d'un stéréotype, comme dans le cas de Gavroche. Ce qui s'exporte dans Combien de marins, combien de capitaines, c'est l'association rhétorique du pathos, du questionnement et du rythme. Voici, avant de conclure, quelques autres réemplois intéressants. Dans une page de stratégie de bridge, je cite, « Oh, combien de marins, combien de capitaines ont péri, point de suspension, à cause de tels oublis. » Un point de détail de bridge. Ailleurs, « Combien de marins, combien de bouteilles sont partis pour des courses lointaines ?» Dans les parvis poétiques de Radio France, « Oh rage, oh désespoir, oh combien de marins !» Dans un article de Libération relatif à l'attitude de Jospin durant la campagne présidentielle, récent donc, « Oh combien de marins !» commence Jospin pour faire l'éloge de la Bretagne, « Combien de capitaines ?» répond la salle en riant. L'orateur n'entend pas ou ne veut pas entendre. Fin de citation. Ailleurs enfin, combien de marins, combien de capitaines, combien de molécules, combien d'animalcules? Ailleurs, oh combien de marins périront cette nuit? Moins drôle. Et pour finir, contre la scientologie, combien de marins, combien de capitaines sont ainsi bloqués à la Sea Org, sans famille pour les aider à en sortir? Dans tous ces cas, on constate que l'intertextualité est au service d'une quête de connivence, et il est probable qu'elle existera pour bon nombre de lecteurs. Pour autant, beaucoup ne pourront pas dire d'où vient cette expression, et ceux de la génération suivante, encore moins. Je ne souhaite pas lutter contre des moulins à vent, ni m'opposer au souffle intertextuel de la langue. Mon but était seulement de quelque peu montrer comment l'Internet permet une diffusion culturelle et textuelle jamais vue dans l'histoire humaine. Mais qu'en dehors des sites officiels fiables, la propension intertextuelle de la langue se combine avec les erreurs de copie et la centrifugation de l'Internet pour produire des effets encore mal visibles, des mauvais et des bons sans doute. Quelques lignes pour finir. Il y a quelques semaines, un collègue de la liste de discussion Balzac L, Balzac Littérature, recherchait une citation de Paul Valéry et sa référence, ajoutant qu'il l'avait trouvée sous plusieurs formes dans l'Internet, mais toujours sans référence. Quelque chose comme « Il n'y a rien de plus profond que la peau ». Dès le lendemain, il recevait la citation et la référence dans le livre intitulé « L'idée fixe » de Paul Valéry. « Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau ». J'espère qu'en parcourant ainsi la surface numérique mondialisée des œuvres de Victor Hugo, références et commentaires inclus, sa nouvelle peau en quelque sorte, j'aurais pu contribuer à une profonde prise de conscience de sa cyberfortune littéraire, mais aussi du travail que notre génération de commentateurs et de pédagogues doit accomplir pour transmettre la mémoire des richesses littéraires. Merci.
Bien, la parole est à la salle.
Médusée.
Merci beaucoup en tout cas pour ce très bel exemple de poésie aléatoire. Il y a une liste, j'ai plus là sous les yeux. Disney, Gide, Sébachère, Rosa. On rapportera tout ça au groupe Hugo, ça leur plaira beaucoup. Arnaud Laster.
Pardon. Oui, tu as sauté, c'est probablement par manque de temps, toute cette rubrique des combinaisons. Et j'étais frappé par la combinaison Victor Hugo-Gide, 2160 occurrences, c'est probablement le Victor Hugo hélas, non, qui... Bon, et là on voit combien une idée reçue fait fortune, en plus, bon, qui est au milieu d'un énorme malentendu, puisque cette citation indéfiniment reprise comme le défense de déposer de la musique ou autre, et la réponse de Gide à une question que presque personne ne connaît. C'est-à-dire tout le monde cite la réponse, mais sans savoir quelle était la question, ou plutôt en inventant une autre.
Mmh. Hein. Tu peux rappeler la question ?
La question, c'était quel est votre poète préféré du XIXe siècle ?
Et non pas quel est, le,
non
plus
pas quel est le plus grand poète français. Donc ça, c'est effectivement très intéressant et bon, et à prendre en compte, attention à ce que Internet ne contribue pas à la fortune des idées reçues. Hein. Bon, enfin bon, c'est peut-être inévitable. Infidélité textuelle, tu en as parlé. Internet n'est pas le seul responsable des infidélités textuelles. Les meilleures éditions, ou pas les meilleures, enfin toutes les éditions peuvent concourir à la déformation du texte, à coups de coquilles, hein, de mauvaises relectures et d'altérations qui se produisent au fil des réimpressions. Donc il faut être extrêmement vigilant sur le texte Et c'est, bon, c'est le boulot des éditions critiques ou des éditions d'ailleurs de poche que d'essayer de procurer, comme on dit, le meilleur texte possible. Enfin, manque de références, dis-tu, dans Internet. Et là, je pose une question. Est-ce que la numérisation des œuvres ne permet pas de retrouver la référence et l'inscription de l'œuvre à l'intérieur d'un ensemble? Ça, c'est vraiment une question de profane.
Oui, alors ça, c'est une question intéressante parce qu'elle s'est posée dès le début de la présence de documents sur Internet. D'abord, il faut bien différencier les deux types de numérisation qui sont proposés. La numérisation en texte, qui est donc d'abord un travail de frappe du texte ou de scanner maintenant, puis de reconnaissance optique des caractères, OCR, Optical Character Recognition, qui permet d'avoir un texte comme si on l'avait tapé soi-même. Ça permet de chercher, de modifier, de mettre en page le texte. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle le mode image, qui est la simple photographie du texte, qui ne permet pas la recherche. Sauf à les combiner, alors c'est ce que fait un peu, je crois, c'est ce que fait le format PDF de la société Adobe, qui est donc maintenant assez courant, je pense que beaucoup de parmi vous le connaissent, et qui permet à la fois une restitution de mise en page à l'original et la possibilité de recherche du texte. Donc on a des journaux, y compris par exemple la une, du Monde ou de Libération ou de... et qui permet aussi de copier-coller. Hein? Si, si. Je te montrerai.
Comment Parce que l'édition bouquin est passée voilà. Donc entièrement.
Alors, là, en fait, tu fais référence justement à ce que j'appelle les sites officiels qui doivent faire ce travail de référenciation correcte. Et dans cet exposé, je me suis intéressé justement à tout ce qui n'est pas officiel. Donc j'ai supposé que dans les sites officiels, les références étaient bonnes. Bon, on pourrait aller y voir en détail, mais en tout cas, ils ont ce devoir et ils en ont conscience. Par contre, dans des sites individuels, je fais une page sur moi avec une photo de ma maison, de mon chien et de ma voiture, et je mets mes trois poèmes préférés, je ne suis pas obligé de mettre les références. Et c'est là que ça se disperse.
Claude Duchet.
Une question, pardon. Merci. Une question que je me pose, je veux dire, j'ai fréquenté un petit peu, comme tout le monde, le langage d'Internet. Ce qui me manque beaucoup, toujours.
Pardonne-moi, tu peux parler dans le micro, s'il te plaît.
Oui, peut-être je ne suis pas. Oui, non. Ce qui me manque toujours beaucoup, moi, c'est la composition sociale, disons, des internautes. Bon. Autrement dit, au point de vue de la circulation culturelle, bon, l'univers culturel est fait de citations qui circulent, bon, à certains niveaux. Et là, effectivement, c'est un bon indice de la pénétration. De la pénétration de quoi? D'un auteur précis, d'un niveau d'étude, d'une forme d'éducation, etc. Mais si on n'a pas un minimum de renseignements sur l'identité sociale de l'internaute, je me demande à quoi on aboutit. Est-ce que c'est à quelque chose qui concernerait la place de Hugo ou qui concerne une sorte de niveau de culture moyen qui a intégré finalement quelques clichés culturels? Voilà, c'est...
Et alors, tout à fait.
Je dis pas que c'est sans intérêt, mais je ne sais pas bien faire le rapport entre les deux.
Non, mais tu as tout à fait raison. J'étendrai même ta question au-delà de ton référent implicite, peut-être. C'est que cet ensemble est mondial. C'est-à-dire que ces citations qui circulent, ces morceaux, ces références ou ces textes entiers arrivent sur des écrans qui sont un peu n'importe où dans le monde et devant des gens qui ont des cultures extrêmement différentes de façon inimaginable pour nous, enfin disons postulable en théorie, mais très difficile à concevoir. D'où le problème effectivement de la socialité des internautes. Alors, il existe des lieux virtuels de communication, de discussion, qu'on appelle des chat rooms, ou bien des clubs, ou bien des listes, des mailing lists, des choses comme ça, où les gens s'identifient, donnent une fiche signalétique avec quelques informations, et là, on peut avoir quelques débuts de réponse à ta question en faisant une étude pendant 3 ans. On va dire que c'est une thèse de doctorat à faire en sciences de la communication ou en sociocritique. Pour autant, il faut quand même, je pense, que l'Internet reste un lieu de liberté et d'une certaine forme d'anonymat qui est encore mal comprise par nous tous, qui est la possibilité d'aller, venir, lire, copier, coller, déformer au besoin pour des usages inconnus et parfois illicites ou criminels. Bon, il faut que les autorités en prennent conscience et fixent des limites, mais tout ça est en plein développement. Donc nous sommes dans ta question.
Bien, vu qu'il est 1h moins le quart, je vais peut-être demander à l'organisateur du colloque si...
Absolument.
On s'arrête là. Bien, et nous reprenons, nous nous retrouvons donc à 14h30. Merci beaucoup.